Avec l'assurance mixte, protégez celles et ceux qui vous sont chers grâce à Suno Assurance qui vous propose Priorité Santé. Suno Assurance, notre métier, l'assurance.
Priorité Santé. Caroline Paré.
Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous allons nous arrêter sur des relations toxiques que certains subissent sans forcément avoir réussi jusqu'à présent à mettre de nom dessus. Qu'il s'agisse d'une mère ultra possessive qui commente, qui régente, d'un ami omniprésent et jaloux qui s'impose, qui réclame, d'un fils trentenaire en demande permanente, une dépendance répétée, parfois insidieuse et pourtant entretenu. Et dans ce type de harcèlement, on parle de harcèlement fusionnel, il n'est plus question de domination, de pouvoir, de hiérarchie, mais bien de dépendance excessive, parfois d'inversion des rôles, d'infantilisation avec à la clé une anxiété chronique qui s'installe. Dans cette relation, l'interdépendance n'a plus de limite. D'un côté, les sollicitations sont permanentes et en face, impossible ou presque de dire non. Immaturité, effacement, passivité, dépendance et même chantage au suicide sont les ingrédients de ce harcèlement particulier dont nous parlons aujourd'hui. Harcèlement fusionnel dont on va tracer les contours avec vous, Eutsemeria, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes psychologue clinicien, psychothérapeute à Paris et vous avez signé Le harcèlement fusionnel, les ressorts cachés de la dépendance affective aux éditions Albin Michel. En deuxième partie d'émission, nous demanderons son avis, son expertise sur cette question à Christophe Jassoa, psychologue clinicien, professeur de psychologie à Lomé. En conclusion de Priorité Santé, nous allons évoquer une étude que viennent de publier l'Institut de Recherche pour le Développement et l'ANRS, l'agence française spécialisée dans la recherche Nord-Sud SIDA HIV Hépatite. Étude sur l'exposition au virus HIV des femmes migrantes victimes de violences sexuelles sur le territoire français. Avec nous tout à l'heure pour en parler, la chercheure Julie Pantier de l'IRD. Et puis pour nous joindre, bien sûr, posez vos questions. Priorité Santé vous donne la parole. Notre numéro, c'est le 33 1 80 82 75 75.
RFI.
Alors pour commencer, je vais vous emprunter cette définition en vous citant, c'est au début de votre ouvrage, Eutsemeria. Le harcèlement fusionnel, vous le définissez comme un ensemble de comportements répétés d'agrippement, d'accaparement, de dépendance par lesquels un adulte force une autre personne à le prendre en charge dans plusieurs domaines de la vie pratique et psychique. Eutsemeria, comment distinguer justement ce harcèlement fusionnel du harcèlement moral ?
Alors, le harcèlement moral, c'est un harcèlement qui est dirigé vers quelqu'un d'autre et qui est motivé par l'intention de nuire à cette personne, de la détruire même, comme le dit Marie-France Irigoyen, qui a popularisé ce concept. Dans le harcèlement fusionnel, c'est très différent. La personne se harcèle elle-même, et c'est ça qu'il faut bien comprendre. Elle se harcèle elle-même, elle est dans l'auto-dévalorisation. On a tous entendu des gens dire « je suis nul, je suis bon à rien, j'y arriverai jamais », etc. Donc c'est vraiment d'abord une violence retournée contre soi, et ensuite dans un deuxième temps qui rejaillit sur l'entourage, d'où le harcèlement.
On est moins dans la séparation entre l'agresseur et la victime que dans le harcèlement moral, il y a une interaction de victimes.
C'est ça, il y a absolument, et il faut insister là-dessus, sur le fait que dans ce harcèlement fusionnel, on peut pas dire il y a un harceleur d'un côté et une victime de l'autre. On porte tous ensemble cette situation de harcèlement et on peut pas désigner comme harceleur une personne qui déjà est vulnérable. Les dépendants affectifs sont déjà très vulnérables et fragiles, mais c'est vrai qu'il y a une codépendance.
Vous utilisez le terme Eutsemeria d'agrippement. Comment se fait-il finalement quand on se sent agrippé, il y a une forme naturelle d'exaspération, on a envie de se libérer de cette chose qui nous court ou qui nous colle après. Comment se fait-il que les personnes qui se retrouvent donc agrippée, ne se détache pas de cette personne terriblement collante.
Elles sont piégées par ce qu'on appelle la loyauté familiale, qui est cette loi qui veut que on grandit dans une famille, on est élevé par des parents, on grandit avec ses frères et sœurs, et on développe l'idée qu'on a une dette à payer envers ces personnes qui sont nos proches. Cette dette, c'est que il faut les aider dans tous les cas et quoi qu'il arrive. Et donc il y a déjà cette raison-là qui est la loyauté familiale, et puis il y a une autre raison, c'est que on perçoit pas directement cet agrippement comme un harcèlement. On peut pas envisager que les gens qui nous aiment et qu'on aime cherchent à nous harceler. Donc ça fait que on fait durer cette situation, et même à la limite on en devient un peu complice.
Alors quels signes doivent alerter, par exemple, dans une relation entre enfants et parents? Qu'est-ce qui montre qu'on n'est plus simplement dans une relation affective ordinaire, on ne va pas dire normale, mais ordinaire on va dire plutôt, mais bien dans une dépendance toxique?
Ce qui doit alerter, c'est la souffrance, toujours. D'abord, on souffre de la situation. La deuxième chose, c'est qu'il y en a un des deux, donc celui qui est dépendant, qui est dans un effondrement continuel et qui n'a pas de solution. C'est-à-dire que si vous avez un fils trentenaire, comme vous disiez, qui ne veut pas quitter la maison, par exemple, et perd son travail, qui a tout le temps des problèmes d'argent, ou qui est effondré sur le plan des relations sentimentales, vous observerez que quand vous aidez ces gens, ils finissent par s'effondrer une nouvelle fois, et ainsi de suite, et ça n'a jamais de fin. Donc quand ça dure 6 mois, 1 an, on peut commencer à s'inquiéter.
Justement, c'est une notion de fréquence et de répétition des demandes, c'est Maria qui, justement, doit dire « là, on n'est pas dans une relation d'aide ordinaire ».
Oui, c'est ça. Et puis, il y a une usure psychique qu'on sent très bien, d'ailleurs. Et c'est la même que dans le harcèlement moral. C'est-à-dire qu'il y a de l'anxiété, il y a de la colère. On commence à développer de l'anxiété, de la colère, de la fatigue, de l'épuisement même, et parfois un état dépressif. Donc,
c'est quand ça commence à faire mal. Justement, on a tous assisté à ces scènes en famille. Quelqu'un qui raccroche le téléphone en disant « vraiment, il exagère ». Pourtant, on reste toujours là pour répondre aux différentes demandes. On peut parler, Tsemeria, d'une forme d'emprise?
Oui, absolument. Il y a une emprise, et d'ailleurs qui est organisée des deux côtés. Parce que quand vous avez un frère, par exemple, ou même votre mari ou votre femme, vous êtes encore une fois pris par cette loyauté familiale. Je dois, quoi qu'il arrive, aider l'autre. Et cette emprise... On en est un peu complice aussi quand on est l'aidant, ce qu'on appelle l'aidant, c'est celui qui aide, parce qu'on est aussi soi-même dépendant, quelque part.
Mais ce sont quand même des valeurs culturelles qui nous sont inculquées d'aider, de tendre la main. Vous dites loyauté familiale comme si c'était quelque chose un petit peu d'anormal. C'est plutôt l'inverse qui peut sembler anormal dans de nombreuses cultures, quand quelqu'un ne va pas bien, ne pas lui venir en aide.
Oui, c'est vrai.
Et c'est quelque chose auquel on assiste dans nos sociétés en voyant des gens par terre, dans la rue, laissés à eux-mêmes, personne ne leur vient en aide. Ce serait ça, la normalité?
Alors, la loyauté familiale, c'est pas une pathologie, hein. C'est tout à fait normal. On grandit tous dans cette loyauté familiale qui fait que on est solidaires les uns des autres. Sauf que dans le harcèlement moral, elle est un peu dévoyée. C'est-à-dire que la personne dépendante affective s'appuie là-dessus. Elle sait qu'elle peut tout demander. C'est un peu son ce qu'elle dirait si elle était sincère et authentique. Elle dirait, souvent ce que j'ai vu, j'ai tous les droits et tu as tous les devoirs.
Mais on peut se demander pourquoi l'autre, Tsemeria, pourquoi l'autre se laisse faire? Au-delà de cette loyauté, celui qui vient en aide, il est à bout, il est anxieux, il est épuisé de ses sollicitations permanentes, et pourtant il continue d'être là encore et toujours. Pourquoi? C'est une peur?
Oui,
une peur du jugement, une peur que l'autre se fasse mal? Qu'est-ce que c'est ce ressort, justement, d'être toujours présent?
D'abord, il y a son devoir. Ensuite, il y a effectivement cette peur, parce qu'on peut... Là, on parle de harcèlement fusionnel, disons, un petit peu excessif, mais ça peut aussi exister de manière beaucoup plus subtile. Il y a des familles fusionnelles où les parents, par exemple, ont la main sur le compte en banque des enfants, et les enfants trouvent ça normal. Donc, ils se font engueuler de temps en temps en disant, t'as dépensé un peu trop ce mois-ci, et à 40 ans, c'est incroyable d'accepter ce genre de choses. Là, ça pose des problèmes, parce que... ça empêche de réaliser vraiment sa propre vie. Moi, les gens que je vois en séance qui ont 40 ou 50 ans et qui n'osent pas fumer devant leurs parents, vous voyez, c'est...
Les parents ont la clé, ils rentrent sans frapper. Absolument. À la porte, ils sont chez eux, chez les enfants, sans problème.
Et très souvent, ils payent le loyer, ils partagent du patrimoine de cette manière. Mais vous voyez, on parlait d'emprise, hein, ça c'est, voilà, c'est différents moyens d'emprise que sont le fait de payer le loyer, de payer des voyages, etc.
Est-ce que ce genre de relation peut entraîner des troubles particuliers, psychiques, voire même physiques?
Absolument, oui. Les conséquences du harcèlement fusionnel sont à peu près les mêmes que les conséquences du harcèlement moral. C'est-à-dire un épuisement, dans des cas extrêmes, un épuisement physique et psychique, avec sur le somatique des problèmes de dos, des céphalées, des
palpitations. Et ce sont parfois cardiaques. Justement ces mots qui conduisent les gens à consulter, et là on dit qu'il y a quelque chose derrière qui sous-tend toutes ces douleurs.
Ce qui conduit souvent à consulter, alors du côté des dépendants affectifs, c'est la prise de conscience qui a effectivement une dépendance, mais surtout c'est la prise de conscience que ces gens ne maîtrisent pas leur vie. Et donc, ce qu'on me dit très souvent en arrivant, c'est voilà, ma vie tourne en rond, j'ai l'impression d'être assis et que les autres avancent à côté de moi, progressent dans leur vie. Et puis, du côté des aidants, c'est effectivement la sensation d'être pris dans un piège affectif, parce que quand vous devez sans arrêt donner de l'argent à un enfant majeur qui veut pas travailler, quand vous devez sans cesse relever un père qui est dépressif, alcoolique, etc., et qui veut absolument rien faire pour s'en sortir, ça pose un problème.
Est-ce que ce sont davantage justement les aidants que les harceleurs qui consultent, ou c'est à peu près la même chose?
C'est à peu près la même chose. Alors, il y a quand même deux cas, c'est-à-dire que quand on est dans un harcèlement fusionnel excessif, extrême, comme je raconte dans mon livre, il y a des cas où les gens perdent leur travail, tombent dans l'errance, se retrouvent SDF à la rue, ou même sont internés, ou sont emprisonnés, parce qu'il y a aussi des comportements à risque et des délits. Dans ce cas-là, j'ai oublié la question, pardon.
On était sur les troubles,
oui,
et on était sur...
Oui, question de consultation.
Exactement.
Voilà. Ces gens-là, quand ils sont vraiment à ce point-là, ils ne consultent pas. Donc ce sont les aidants qui consultent et qui appellent au secours. Dans les autres cas, ce sont les dépendants affectifs qui prennent conscience de leur dépendance.
Otsemaria, si vous le voulez bien, nous allons tout de suite donner la parole aux auditeurs de Priorité Santé.
Priorité Santé sur RFI.
Notre premier auditeur, c'est l'Unique. Bonjour l'Unique.
Bonjour madame.
Vous nous appelez de Paris, on écoute votre témoignage.
Oui, c'était juste concernant la relation très intime qu'on avait avec ma mère et qui ne voulait pas trop se détacher de moi tout le temps. Donc c'était un peu difficile au début, mais là je pense que ça commence à s'améliorer.
Vous êtes aujourd'hui à Paris, vous avez une épouse. Est-ce que cette relation avec votre mère a justement une influence sur votre vie familiale ou votre vie de couple?
Effectivement. C'est depuis le début, en fait, moi, si vous voulez, elle m'a élevée toute seule. Elle m'a déjà eu très jeune, à 17 ans. À 17 ans, elle avait déjà un enfant et du coup, je ne m'étais jamais détaché d'elle. Et après, toutes les relations que j'ai connues intimes ou quoi, et ma mère était toujours très imposante. Maintenant, actuellement, depuis que je suis en France, et qu'il y a une distance, au début, elle appelait presque chaque jour, mais là, je pense que ça commence à s'améliorer, et puis elle a compris que j'ai plus de 30 ans maintenant, elle doit pas toujours être présente dans ma vie, quoi.
Eutsemeria, des mères qui ne veulent pas se détacher, voire l'oiseau quitter le nid, comme on dit communément, ça peut être assez fréquent. Mais quand est-ce que cela devient du harcèlement fusionnel?
L'Unique l'a dit très bien, c'est quand il y a un envahissement de la vie quotidienne. Alors, ça se repère très bien au fait qu'il faut s'appeler 5-6 fois par jour, voire plus parfois. L'envie, je ne sais pas si c'est le cas de notre auditeur, mais l'envie de diriger la vie de l'enfant aussi. Quand ça va dans ce sens-là.
Y compris quand il a décidé de partir, quand il a décidé de fonder sa propre famille. Continuer à avoir un droit de regard sur ce qui se passe.
C'est ça. Alors, on a les clés de la maison. On décide souvent aussi du conjoint. Ça, c'est très fréquent. On dira celle-là, oui, celle-là, non. Je ne sais pas si ça a été le cas, là, mais en tout cas, cette personne, l'Unique, a bien réagi parce qu'une des solutions, c'est de mettre de la distance. Ça marche très bien, ça, la distance.
la distance sans forcément arriver à une rupture totale.
C'est ça, la rupture, ça serait l'échec. Alors que la distance physique, j'entends, quand on n'arrive pas à la mettre physiquement
à l'obtenir proche, dans l'organisation de la vie.
Voilà, c'est ça. La distance géographique, c'est une très bonne solution. Beaucoup le font. Et ça marche très bien. D'ailleurs, dans les deux sens. Hein, je me souviens d'un cas où d'un père qui supportait pas du tout que sa fille s'éloigne, sa fille majeure, hein, qui appelait le SAMU dès qu'elle partait en soirée, etc., qui patrouillait. Je le raconte dans le livre d'ailleurs, qui est taxi et qui patrouille dans la ville en voiture pour chercher sa fille, pas du tout dans le quartier où elle est d'ailleurs, ce qui est... mais quand elle est partie en voyage en Amérique du Sud il y a quelques temps, tout allait bien, elle était loin, et il a réussi à faire le deuil de
cette relation,
de
complètement
contrôle, oui.
Absolue. Merci beaucoup Lunik pour votre témoignage. Nous allons prendre maintenant Bouna en ligne de Nouakchott en Mauritanie. Bonjour Bouna.
Bonjour.
On vous écoute.
En ce qui concerne ma femme, je me suis tout de suite rendu compte après notre mariage qu'elle était assez possessive. Lorsque nous avons fondé notre école, j'ai commencé à recruter surtout des femmes. Alors là, c'est devenu tout à fait intenable. Elle tenait à maîtriser tout. Elle voulait savoir chaque femme que j'ai recrutée, d'où est-ce qu'elle venait, quelle est ma relation intérieure avec cette femme. Et il lui arrive même de chercher dans mon téléphone. Et si elle se rend compte qu'elle a tort, elle commence à culpabiliser et ça devient encore une autre scène plus difficile.
Ça veut dire que votre femme, on l'a compris, Bouna, cette femme est jalouse, mais en même temps, ses sentiments la rendent malheureuse elle-même.
Et oui, justement. Et moi, c'est ce qui me rend plus malheureux moi aussi. Et je me moque d'elle parfois pour dédramatiser. Et après quelques jours, je lui dis que finalement, ce n'était pas grand-chose, ce n'est pas la peine qu'elle se morfonde dans cet état de, comment on dit, état d'esprit. Que c'est normal, c'est parce qu'elle m'aime et moi j'apprécie. Et parfois, elle a des accès de jalousie et nous devons gérer ça ensemble et rire de ça ensemble.
La complexité de ces mariages, justement, de distinguer la jalousie du harcèlement fusionnel. On voit à travers le témoignage de Bouna qu'il a malgré tout beaucoup de compassion pour son épouse, de l'affection. Il essaye de dédramatiser. Ça veut dire que malgré tout, il est toujours là pour elle, malgré cette pression qu'elle exerce sur lui.
Oui, il est toujours là pour elle et il faut affronter ce problème ensemble, en effet, en concertation. Hein. Alors, vous disiez, il y a une difficulté pour distinguer le harcèlement fusionnel de la jalousie. Mais le harcèlement fusionnel, c'est une conséquence de la jalousie maladive. Là, on est dans la jalousie maladive. Il y a une jalousie, disons, normale qu'on a un peu tous, mais là, elle est maladive parce que on voit bien l'agrippement. Elle fouille le téléphone. D'ailleurs, j'aimerais savoir comment elle peut faire parce que
il suffit de mettre un code. Hein.
C'est ça. Souvent, les gens me disent mon conjoint fouille mon téléphone, mes réseaux sociaux, etc. Et je demande, est-ce que vous avez un code? Et ils disent, mais je l'ai donné. Donc là, c'est déjà une première chose à faire. Si on parle de solution, on met un code et on signifie de cette façon qu'il y a des limites. C'est toujours ce principe-là. Il faut mettre des limites physiques. Par exemple, dans la façon de se parler, on se parle très mal. Souvent dans les couples jaloux, dans les familles fusionnelles. On s'insulte, on peut même se taper. Là, il faut mettre des limites. Il faut mettre des limites de pudeur.
Territoire aussi, tout simplement.
De territoire, cultiver un jardin secret, avoir des occupations seules. Alors, c'est très compliqué parce que ce qu'il faut bien comprendre dans la jalousie maladive, c'est qu'il n'est pas question d'amour, contrairement à ce qu'on croit. Il est question de vie ou de mort. C'est-à-dire que si vous vous éloignez de moi, j'ai l'impression que je vais disparaître, m'anéantir. Donc il faut prendre ça très au sérieux. Et le travail à faire, s'il y a des conseils à donner, c'est que ce travail-là ne peut se faire qu'en se faisant accompagner par un psy, hein, bien entendu.
Se faire aider en parlant à l'extérieur du couple, Bouna, voilà le conseil de Tsemeria. Merci beaucoup pour votre appel de Nouakchott en Mauritanie. Bien évidemment, tout à l'heure, dans la deuxième partie de Priorité Santé, on va à nouveau donner la parole aux auditeurs de notre émission. On va se retrouver donc après les informations, toujours en compagnie de Eudes Semeria. On continue de définir, de décrire ce qu'est le harcèlement fusionnel. Et pour vos questions, bien sûr, le numéro de Priorité Santé, c'est toujours le 33 1 84 22 75 75. À tout à l'heure.
Priorité santé. Caroline Paré.
Et on se retrouve pour cette seconde partie de Priorité santé consacrée au harcèlement fusionnel. On continue d'en parler toujours en compagnie de notre invité, Eudes Semeria, psychologue clinicien, psychothérapeute à Paris, auteur du harcèlement fusionnel, les ressorts cachés de la dépendance affective, publié aux éditions Albin Michel. Agrippement répété, accaparement, dépendance, codépendance toxique que vous décrivez dans ce livre. Alors une fois la notion posée, on aborde la prise en charge de ce type de trouble relationnel. Même si cette fusion est source de souffrance, l'aidant peut redouter la séparation. Pourquoi c'est si dur pour certains, Eudes Semeria, de se séparer?
Alors là, on parle des origines de la dépendance affective. On les rapporte souvent à des traumas dans l'enfance, des choses qui sont de l'ordre du deuil, par exemple précoce. Mais on les rapporte aussi à des comportements pas violents, mais disons un peu maltraitants des parents, et ce qu'on appelle les injonctions parentales. Vous savez, ces phrases qui sont la mère ou le père qui dit à l'enfant « tu n'y arriveras pas, laisse-moi faire, tu es nul », même, et ce sont des choses qui sont ensuite intégrées. Et ce qui est intégré, c'est l'idée qu'on s'en sortira jamais tout seul.
Dévalorisation, perte de confiance, ce sont les ingrédients qui conduisent à ce type de relation?
Absolument, oui. Et on renonce jamais donc à ce lien très étroit avec la mère ou le père, qui devrait laisser place à une existence plus autonome.
Tout à l'heure, vous disiez à notre auditeur Bouna de se faire aider, de se faire accompagner pour sortir justement de ce type de d'interdépendance basée sur la jalousie dans le couple. Et dans le livre, vous préconisez, Eudes Semeria, un accompagnement psychologique plutôt qu'une thérapie. C'est quoi la différence?
Oh, la différence, c'est que l'accompagnement psychologique, ça peut être quelques séances sur le court terme, alors qu'une thérapie, on entre vraiment là dans un projet de changement profond. Alors ça dépend un petit peu du caractère plus ou moins prononcé de la dépendance affective.
Et justement, tout à l'heure, vous faisiez référence à ce qui s'est passé dans l'enfance. Est-ce que systématiquement, il va falloir aller chercher ces ressorts, ce passé personnel des individus qui consultent de Semeria, parce que ça ressemble quand même quelque part à une thérapie?
Non, alors pas forcément. On n'est pas obligé d'aller chercher ce qui s'est passé dans l'enfance. D'ailleurs, parfois, il s'est pas passé grand-chose en réalité. Vous savez, le plus impressionnant dans la vie, c'est la découverte du fait qu'on va mourir un jour. Donc ça caractérise la psychologie existentielle. Donc vous avez des enfants, on l'a tous découvert autour de 2-3 ans. Moi, je l'ai vu récemment avec un petit enfant qui a vu un pigeon mort dans la rue et qui a poussé un cri absolument atroce et qui en a parlé pendant des semaines. C'est pas un traumatisme, on n'appellerait pas ça un traumatisme, simplement qu'il s'est rendu compte que... Et puis il a parlé de la mort, il a demandé si on allait mourir, etc. Donc vous voyez, c'est...
Vous, le mode d'approche du règlement de ce type de problème, il est plus vers ce qu'on a à construire par rapport à ce qui a été brisé dans le passé.
C'est ça. Alors, c'est pas, comme je disais, c'est pas toujours un problème du passé. On n'est pas obligé de s'y intéresser, et d'autant plus que parfois on ne trouve pas, on peut pas trouver. S'il y a eu un traumatisme, parfois il est tout à fait introuvable. En réalité, on s'occupe de l'ici et maintenant. Qu'est-ce qui se passe en ce moment dans votre vie? Comment vous faites face? Comment vous êtes d'ailleurs dans la séance? On travaille beaucoup là-dessus. Moi, pour donner un exemple, j'ai reçu une patiente dernièrement qui riait nerveusement après chaque phrase. Donc au bout d'un quart d'heure, elle avait ri 50 fois. Donc je l'ai arrêtée, je lui dis « Vous vous rendez compte que vous riez après chaque phrase ?» Et elle me dit « Non, je n'ai pas remarqué. » Donc on travaille là-dessus. Par exemple, je lui dis « Qu'est-ce que ça signifie ?» Ça signifie qu'elle ne peut pas assumer ce qu'elle dit. Et donc de rire comme ça nerveusement après ce qu'elle disait, ça voulait dire « Ne prenez pas au sérieux ce que je viens de dire, ça ne compte pas. Ne me prenez pas au sérieux. » Et vous voyez comment finalement on flingue sa vie, quoi. Et elle venait d'ailleurs pour une raison d'estime de soi, un problème d'estime de soi. Donc le travail peut se faire simplement là-dessus, alors sur d'autres choses beaucoup plus complexes, mais en tout cas, en tant qu'exercice concret, réprimer ce rire à chaque fois que je dis quelque chose, c'est assumer ce que je dis. Donc déjà commencer à
se prendre au sérieux. Oui. Si vous le voulez bien, on va se retrouver dans quelques minutes. Tout de suite, on part pour le Togo.
Priorité santé sur RFI.
Et nous sommes en ligne avec Christophe Djassoa. Bonjour.
Bonjour madame.
Vous êtes psychologue clinicien, professeur de psychologie à Lomé. Christophe Jassoa, est-ce que vous êtes confronté lors de vos consultations à des situations qui s'assimilent justement à ce harcèlement fusionnel, ce sujet dont on parle depuis le début de cette émission?
Oui, très souvent.
Avec des familles, avec des adultes ou des enfants qui viennent vous consulter?
Des enfants, des adultes.
Et quel genre de récits vous font-ils?
Bon, nous on fouille un peu dans le passé. On fouille un peu dans le passé. Et ce qu'on découvre, c'est souvent des enfants abandonnés, par exemple, qui sont dans les pouponnières. Ils sont vraiment accrochés pour chercher l'affection qui leur a manqué. Ou bien c'est plutôt mère couveuse. Pour des raisons, parce que peut-être les enfants qu'elle a eu, la maman a eu, sont décédés, ou bien elle n'a jamais eu, ou bien elle a fait des avortements, après elle ne peut plus avoir des enfants, et l'enfant qu'elle a eu devient précieux, l'enfant précieux, donc on le couvre, on l'empêche de fonctionner seul, on fait tout à sa place. Donc, là, vraiment, il ne construit pas ses capacités de s'autonomiser, de devenir autonome, indépendant et fonctionner seul sans les parents.
Avec à la clé, Christophe Jassoa, des risques pour la santé de ces enfants, justement, qui n'arrivent pas à s'émanciper.
Bien sûr, c'est même un problème de santé. C'est un problème de santé. Dans le temps, on parlait de psychopathie. Donc, l'enfant ne peut pas, devant les situations, il est impulsif, il ne peut pas contrôler, s'est poussé vers la satisfaction, etc. Donc, il ne développe pas, comme on dit, les défenses face à la réalité pour pouvoir gérer la réalité, les frustrations et arriver à tolérer les frustrations et à s'autocontrôler. Et donc, c'est le problème que nous rencontrons.
Vous avez aussi des couples, Christophe Jassoa, qui viennent consulter pour des relations complexes, peut-être d'ailleurs, qui pourraient rappeler ce dont ont témoigné tout à l'heure les auditeurs de RFI, notamment des situations de jalousie extrême?
Bien sûr. On surveille, c'est surtout les hommes qui font ça. Les femmes aussi, mais c'est surtout les hommes. Donc on fouille, on essaye d'accrocher, on suit l'épouse et même on la fait suivre, on la suit. Elle est au travail, on prend la voiture pour aller voir si elle n'est pas avec quelqu'un, etc. Et on fouille son portable pour voir qui a appelé et tout ça. Non, ça existe, on rencontre.
Alors qu'est-ce que vous conseillez face à ce genre de situation?
Bon. Il faudrait faire le diagnostic. Pourquoi? Le diagnostic de cause à effet. Bon, dans ce cas, ce qu'on a rencontré souvent, c'est l'impuissance, c'est-à-dire le fait de ne pas pouvoir satisfaire sexuellement sa femme. Donc on pense qu'elle va courir d'autres hommes pour obtenir ce qu'elle n'obtient pas avec vous. C'est souvent ce qu'on rencontre. Donc en ce moment-là, il faudrait voir à la base c'est l'impuissance. Est-ce que c'est la femme qui demande trop ou bien c'est l'homme qui ne peut pas satisfaire? Voir justement quel type d'impuissance il y a. C'est l'impuissance peut-être émotionnelle, tous les organes sont bons, ou bien c'est neurologique, là c'est autre chose. Donc on va adresser la personne au spécialiste ou bien essayer de l'aider à résoudre le problème si c'est affectif.
Et dans les cas des dysfonctionnements familiaux, vous citiez tout à l'heure justement ces enfants en situation de blocage, vous recevez les parents ou vous recevez ensemble parents et enfants, Christophe Jassoa?
Justement, si c'est les enfants, on reçoit les parents et enfants. On écoute l'enfant et puis on écoute les parents et à la fin, ce qu'on pourrait faire, c'est peut-être une thérapie familiale prendre les parents à part et si l'enfant est trop jeune, et puis essayer de faire une sorte d'éducation familiale, que les parents arrivent à donner un peu d'autonomie à leur enfant.
Et quand vous avez affaire à un adulte, là on ne parle plus simplement d'un petit enfant, mais bien encore un adulte qui reste, malgré son âge, dépendant de ses parents.
De ses parents.
Donc ils sont plus âgés, peut-être une génération au-dessus. Ce serait pour nous des grands-parents, si vous le voulez.
Oui. Donc, en ce moment, ça devient un problème à résoudre psychologiquement avec la personne intéressée. Et à voir quel type de thérapie on peut mener pour l'aider à se prendre en charge. Et il faut fouiller même dans son passé aussi pour voir. Parce que, bon, si c'est le cas de gens de jalousie, comme on disait tout à l'heure, ça peut remonter aussi au fait du choix du conjoint. Parce que, comme l'a dit Freud, on ne choisit pas n'importe qui comme conjoint, on choisit l'image du parent du sexe opposé. Alors, donc le problème se trouverait à ce niveau-là. Donc on va étudier la question pour voir si la psychanalyse est indiquée ou bien d'autres types de méthodes.
Merci beaucoup Christophe Jassoua. Je rappelle que vous êtes psychologue clinicien, professeur de psychologie à l'OMU. On va prendre tout de suite un auditeur de RFI. C'est Issa qui est en ligne du Niger, de Niamey. On vous écoute Issa, bonjour.
Oui, bonjour, priorité santé.
On vous écoute, votre témoignage.
Oui, en fait, moi, mon inquiétude, c'est que toujours avant de prendre des décisions ou bien quand je suis face à des problèmes, je suis toujours confronté à vouloir consulter ma famille ou bien à penser aux conseils qu'ils me donnent avant même d'agir sur une action. Mon inquiétude est que peut-être que je ne suis pas assez majeur pour prendre des décisions comme responsable, quoi.
Vous avez quel âge, Issa?
J'ai 24 ans.
On est majeur à 24 ans, on est même majeur à 18 ans dans la plupart des pays, 21 ans dans d'autres pays. Pourquoi justement vous avez besoin de l'avis de vos parents et qu'est-ce qu'ils vous répondent? Ils ne vous disent jamais « Issa, fais ton choix, tu es bien assez grand pour ça », ils ne vous disent pas ça?
Bon, peut-être vous savez, comme on est en Afrique, l'opinion d'une seule personne ne compte pas, mais plutôt l'opinion du groupe.
Mmh.
Oui, c'est pour cela que j'ai besoin de conseils. Bon, parfois, ils me disent « Tu es assez grand pour prendre tes propres décisions, ainsi de suite. » Mais en tout cas, ça ne va pas de mon côté.
En même temps, quand on vous écoute, on a l'impression que vous avez la volonté de devenir plus autonome. D'après vous, qu'est-ce qu'il vous manque pour passer le cap?
Bon, d'après moi, ce qui me manque... Comme en ce moment, j'étudie, je n'ai pas encore eu à avoir un travail pour faire un petit étude. Bon.
Vous manquez d'autonomie financière? Vous faites des choix quant à votre avenir familial? Est-ce que tout cela dépend de vous? Vous êtes à la recherche d'un emploi, par exemple?
Non, pas encore. J'aimerais avoir ma licence après. Et
vous êtes étudiant.
Oui. C'est un travail pour faire quoi. Ensuite, on verra quoi faire.
Eux de Semeria, quand on entend le témoignage de Issa, on n'a pas vraiment, je ne sais pas, après ce que j'ai lu dans votre livre, après ce dont on vient de parler, je n'ai pas l'impression qu'on soit face à quelque chose qui s'apparente à du harcèlement fusionnel. Il cherche des pistes, mais je n'ai pas l'impression qu'il embête grand monde.
Alors ça, il faudrait...
Parler plus longtemps avec lui.
Oui, il faudrait lui poser la question. Et quelle est la réaction, finalement, des gens qui l'entourent? Il disait que c'est culturellement admis, plus ou moins. Bon. Mais c'est vrai qu'on retrouve souvent, très très souvent, chez les dépendants affectifs, ce besoin d'aller demander des conseils à son mari, sa mère, son père, etc. En réalité, ce sont des demandes d'autorisation. C'est vraiment quelque chose qui définit la dépendance affective, cette incapacité à prendre des décisions soi-même. Et la meilleure manière de traiter ça, c'est de comprendre que ben, on peut s'entraîner à acheter des choses sans demander conseil. Et qu'est-ce qu'on sent dans ce moment-là? C'est une grande vulnérabilité parce qu'on se dit je peux me tromper. Et ça, il faut l'accepter. Il faut s'entraîner à se mettre en danger, à ressentir cette vulnérabilité.
Il faut se lancer des défis et réussir à les,
oui,
à les dépasser.
Des petits défis. Hein, on ne part pas de
on
très haut.
On ne se met pas en danger.
Voilà. Mais c'est déjà une initiation à cette vulnérabilité existentielle. Ce qu'il y a derrière ça, c'est que j'existe. Quand je demande des validations et des autorisations à mes parents, c'est vraiment un refus de vivre ma vie de manière autonome. Pourquoi ? Parce que quand on vit, un jour, on meurt.
On se met en danger, forcément. Merci beaucoup, Issa, de cet appel de Niamey. Tout à l'heure, vous disiez, la rupture, quand il y a harcèlement fusionnel, la rupture, c'est l'échec. Mais parfois, on est bien obligé d'en arriver là.
Oui. Parfois, on arrive à la rupture. Et là, c'est dommage, mais c'est comme ça. Mais là, on est vraiment dans des cas extrêmes. On est dans des gens qui sont dans l'errance, dans la drogue, dans la prison, etc.
Dans le couple aussi, quand il y a une jalousie qui devient intolérable, on peut être amené à ne plus accepter ça. Parce que finalement, dire vouloir réparer sans cesse en situation de harcèlement fusionnel, c'est finalement tolérer. Sans cesse.
C'est ça. Et donc la rupture est inévitable parfois dans le couple, en effet. Hein, la jalousie, c'est vraiment quelque chose de très, très difficile à vivre. Et si la personne jalouse ne veut pas se faire aider, même simplement techniquement, hein, comment faire pour sortir de cette jalousie maladive, si elle ne veut pas bouger, il n'y a pas d'autre solution la plupart du temps.
Alors, il y a la jalousie et puis il y a d'autres modes de pression extrêmes dans le cadre du harcèlement fusionnel. C'est le chantage au suicide et ça, c'est quelque chose qui est relativement fréquent. Et justement, dans votre livre, Eudes Semeria, sans parler de solution, bien sûr, parce qu'il n'y a pas de solution à ce genre de situation critique, vous donnez des pistes pour essayer de s'en sortir le mieux possible.
Oui, ce qui caractérise le chantage affectif, c'est le fait que le chantage au suicide, c'est le fait que la personne vous rend responsable de son futur suicide. Ce que j'évoque dans le livre, c'est que il faut absolument renvoyer cette responsabilité. Dire à la personne qui vous fait ce chantage, tu seras responsable de ton acte et moi, en aucun cas, je n'en porterai la responsabilité. En général, on peut pas être sûr à 100% en psychologie, bien entendu, mais moi, pour ce que j'ai pu observer, c'est que quand vous faites ça, la personne ne peut pas passer à l'acte. Parce qu'en l'occurrence, se rendant responsable de son acte, elle voit apparaître la mort derrière. Si elle vous balance sa responsabilité et que vous l'acceptez, et vous l'acceptez comment ? En la surveillant, en étant toujours là à regarder ce qu'elle fait. Si vous l'acceptez, pour elle, le suicide n'a pas de conséquences en réalité.
Vous parliez des consultations des personnes qui viennent vous voir. En général, la prise de conscience, on évoquait les troubles suscités par ce genre de relations dysfonctionnelles. La prise de conscience qui mène à la consultation, elle vient d'où ? Elle vient de l'extérieur ou elle vient d'un mal-être tel que on ne peut plus faire autrement que d'aller voir quelqu'un ?
Elle vient très souvent d'attaques de panique. Parce que la dépendance affective mène inexorablement aux angoisses, aux crises d'angoisse, aux attaques de panique et à la dépression. Donc la plupart des gens consultent en disant « je comprends pas, je fais des attaques dans le métro, j'arrive plus à me lever ». La dépendance affective, ou en tout cas, disons, l'attitude fusionnelle dans la vie, c'est vraiment un refus de vivre sa vie de manière autonome.
Mais les gens viennent avec leur malaise ou ils viennent, ils expriment d'ores et déjà ce qui ne va pas. En général, il faut fouiller est-ce que c'est quelque chose finalement qui n'est pas refoulé? Parce que c'est peut-être honteux pour quelqu'un de 40 ans de dire j'appelle ma mère tous les jours, c'est elle qui met de l'argent sur mon compte en banque. C'est pas facile à assumer en public ce genre de choses.
Non, ils viennent pas avec ce discours-là. Ils viennent avec ça va pas dans ma vie n'avance pas, c'est ça hein, la demande. Ensuite, c'est vrai qu'ils sont rarement conscients de cette dépendance affective. Pour eux, c'est normal. Quand on a grandi comme ça avec une maman qui a la clé de finalement de chez soi et qui vient fouiller ses affaires, on trouve ça normal. Il y a des gens qui trouvent ça normal. D'ailleurs, j'avais un patient à qui j'ai dit vous êtes un peu fusionnel avec votre maman et ça l'a choqué. Il m'a dit ah bon, ça lui paraissait pas évident quoi.
Mais le mot fusionnel, d'ailleurs, n'est pas forcément négatif. Beaucoup de gens disent une sorte de compliment, c'est de là ils sont vraiment fusionnels. Quand est-ce que justement, on arrive à la conclusion de l'émission, quand est-ce que cette fusion qui peut être quelque chose de beau devient quelque chose de profondément dangereux ?
C'est vrai qu'on peut parler d'une maman et de son bébé qui sont fusionnels, d'un couple amoureux, etc. Alors c'est très simple, la relation fusionnelle devient, disons, pathologique à partir du moment où elle dure. Parce que ce soit dans la
et
relation...
Pourtant, il y a des couples qui durent.
Faudrait leur poser des questions plus précises hein, sur ce qu'ils appellent la fusion. Alors, mais effectivement, une maman et son bébé, cette relation-là ne peut pas durer. Sinon, ça se fera au détriment de l'individuation du bébé qui sera éternellement suspendu au bon vouloir de sa mère. Pareil chez les amoureux. Moi, si vous en connaissez chez qui ça dure, je veux bien, je veux bien savoir comment ils font.
Ils vont consulter, bon, c'est que c'est
oui,
pas
normal.
Oui,
mais la passion finit par s'apaiser, laisser place à une relation plus équilibrée où chacun retrouve un petit peu de autonomie. Si ça dure, en général, ça finit mal quand même.
Mais justement, cette fusion, il y a des gens qui sont en quête. Pour eux, c'est un idéal d'être en permanence dans un état de transport, de dépassement des limites. Finalement, c'est quelque chose, c'est une quête qui est vaine, qui ne sert à rien, voire qui est même risquée.
C'est une totale illusion. C'est une illusion, et d'ailleurs c'est celle que recherchent la plupart des personnes dépendantes affectives. C'est d'aller se fondre dans quelqu'un, de s'oublier un peu comme on boit, hein, quand on est ivre, comme ça on s'oublie, on sait plus trop de quoi il s'agit, il y aura bien quelqu'un pour s'occuper de moi, etc. Bon, me ramener chez moi, etc. Mais c'est une quête qui est vaine, et en psychologie existentielle, dans laquelle je m'inscris, on parle de cette poursuite vaine. Vous savez, on arrive seul au monde et on repart seul, et c'est tout à fait effrayant. Donc entre ces deux bornes, effectivement, on essaye de connecter sa conscience à celle de quelqu'un d'autre, mais on peut pas.
Et on essaye d'en profiter, parce que donner un petit peu de tonus aussi à ceux qui nous écoutent. C'est vrai que c'est comme ça, mais entre les deux, il se passe des choses très très belles, comme cette émission. Voilà, cet échange touche à sa fin. Merci beaucoup, Aude Semeria, de nous avoir éclairé sur ces dépendances affectives assez envahissantes. Je rappelle que vous êtes psychologue clinicien, psychothérapeute à Paris, et je renvoie donc nos auditeurs à la lecture de vos votre livre, Le harcèlement fusionnel, publié chez Albin Michel.
Priorité santé sur RFI.
Une étude, un document publié il y a 2 semaines par l'Institut de recherche pour le développement et l'ANRS, l'Agence publique française de recherche sur le sida et les hépatites virales, travail qui porte sur l'impact sanitaire des violences sexuelles subies par les femmes migrantes sur le sol français. En ligne avec nous, Julie Panetier, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes chercheure post-doctorante au Centre Population et Développement, unité de recherche qui associe l'Université Paris-Descartes et l'IRD. Alors, ce que vous avez constaté dans ces recherches que vous avez menées conjointement avec Annabelle Desgrés-Duloup, c'est que ces violences sur les femmes multiplient par 4 les risques d'infection par VIH. Est-ce que vous vous attendiez à de tels résultats ?
On savait qu'il existait un lien entre les violences sexuelles vécues par les femmes en Afrique subsaharienne et le VIH, mais on ne s'attendait pas à un résultat aussi fort pour des femmes originaires d'Afrique subsaharienne vivant en France, ayant acquis le VIH en France et ces violences sexuelles ayant lieu en France. En fait, ce qui était étonnant, en fait, c'est qu'on retrouve ce lien connu également en Europe, dans un pays européen.
Alors justement, vous décrivez les parcours de ces femmes migrantes, parcours migratoires souvent douloureux, des populations vulnérables, précarité administrative, conditions de vie complexes. Et puis, à l'arrivée, eh bien, ça ne s'arrête pas puisqu'il peut y avoir là encore la confrontation à ces violences sexuelles. C'est véritablement un parcours chaotique.
Oui. Alors, ce que l'enquête parcours a montré, c'est que effectivement, les années vécues après l'arrivée en France, où les femmes n'avaient pas encore de titre de séjour stable, c'est-à-dire un titre de séjour d'au moins 1 an, et les années où elles n'avaient pas encore de logement stable, c'est-à-dire lorsqu'elles avaient changé souvent de logement et lorsqu'elles étaient hébergées par de la famille, des amis, ce sont des années où elles ont été beaucoup plus à risque d'avoir été forcées à avoir des rapports sexuels contre leur volonté.
C'est-à-dire que cette précarité généralisée est véritablement un facteur aggravant, hein, c'est ce que vous avez constaté, étude à l'appui, facteur aggravant de risque de violence sexuelle et d'exposition aux IST.
Exactement.
Avec justement quelle prise en charge derrière pour ces femmes ? Vous parlez justement de fragilité administrative, est-ce qu'il peut y avoir une réelle prise en charge d'un point de vue sanitaire ?
Ah ben, la réponse à ce problème. En fait, elle est à la fois politique, sanitaire et sociale. Et nous, en fait, cette étude, elle est vraiment très intéressante parce qu'elle donne également des clés pour que les choses changent et avancent, puisqu'elle montre en fait que le logement est très important. Donc, les années où les femmes n'ont pas de logement à elles, de logement personnel, sont également des années où elles déclarent avoir plusieurs relations intimes, notamment des relations en échange de biens matériels, des papiers par exemple, un hébergement, et c'est dans ce type de relation qu'elles sont également plus à risque d'être forcées à avoir des rapports sexuels contre leur volonté, parce qu'elles sont dans une situation de dépendance, et ce qui les rend aussi plus à risque vis-à-vis du VIH. Donc la question du logement, de l'accès à un logement stable le plus rapidement possible après l'arrivée en France, ça c'est un élément sur lequel il faudrait travailler pour pouvoir protéger ces femmes.
Et qu'il y a des implications sanitaires majeures. Merci pour toutes ces précisions, Julie Panetier. Je rappelle que vous êtes chercheure post-doctorante au Centre Population et Développement. Priorité Santé touche à sa fin. Merci à toute l'équipe qui chaque jour fabrique et réalise votre émission. Demain, nous parlerons des mutilations génitales féminines à l'occasion de la Journée mondiale de l'excision. Si vous voulez témoigner, posez une question, bien sûr. Le numéro de Priorité Santé, 33 84 22 75 75. Vous pouvez nous réécouter sur RFI.fr. À demain.
C'était Priorité Santé avec Sounou Assurance qui vous recommande l'assurance mixte pour protéger celles et ceux qui vous sont chers. Sounou Assurance, notre métier, l'assurance.